Et tout de suite, on reçoit l'invité de la rédaction pour parler d'une association qui aide les personnes exilées.
Et oui, donc l'association Utopia 56 a été fondée en 2015 en Bretagne pour encadrer le bénévolat qui se déployait alors sur la jungle de Calais. C'est une association citoyenne financée uniquement par les dons de particuliers d'autres associations ou d'entreprises ou des fondations qui sont soumises à une charte éthique. Des actions sont organisées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et mobilisent plus de 200 bénévoles quotidiennement sur l'ensemble des 8 antennes de l'association. Aujourd'hui, pour en parler, on reçoit Marion Quercy, coordinatrice de l'antenne de Rennes d'Utopia 56, autour de l'accueil des personnes exilées. Bonjour Marion.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc pour commencer, pour poser un petit peu le contexte, vous œuvrez donc pour venir en aide aux personnes exilées en France, plus particulièrement à Rennes dans votre cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différentes actions que vous mettez en place pour aider ces personnes-là?
Oui, alors à Rennes, du coup, on a 3 pôles principaux. Notre premier pôle, c'est le pôle terrain. On l'appelle comme ça. On réalise des maraudes à Rennes 2 fois par semaine sur 2 circuits. Donc là, on va à la rencontre des personnes sans abri. C'est surtout des maraudes de lien social et sinon, on distribue de la nourriture, des vêtements, des produits d'hygiène. Ensuite, on a le pôle famille, sur lequel on fait principalement de la mise à l'abri d'urgence. Donc on apporte des tentes, des matelas, des couvertures aux familles de personnes exilées qui se retrouvent à la rue. Et enfin, on a le pôle mineur. Et donc ça, c'est l'accompagnement des mineurs isolés étrangers qui n'ont pas été reconnus mineurs par le département.
Vous accompagnez également les personnes exilées au niveau juridique et administratif. Qu'est-ce que vous leur apportez dans les démarches qui sont nécessaires pour la reconnaissance de leurs droits?
Nous, du coup, sur les démarches juridiques, ce sera principalement avec les mineurs. Et on leur apporte un soutien que l'État ne leur apporte pas. Parce que c'est des personnes, nous on s'occupe principalement des personnes qui ne sont pas prises en charge par l'État, par les collectivités territoriales, etc. Donc on fait principalement de l'orientation, on les renseigne sur leurs droits tout simplement, pour qu'ils puissent demander l'application de leurs droits.
Et donc sur Rennes maintenant, il y a de nombreuses problématiques qui ont été levées ces derniers mois, notamment l'évacuation de 2 campements au Parc Saint-Cyr et au Square de la Touche. On en avait parlé ici avec Armel Bounia qui fait partie du collectif de soutien aux personnes sans papier à Rennes. Donc la situation a maintenant évolué. Depuis le 6 novembre, vous occupez avec une trentaine, si je ne dis pas de bêtises, de personnes exilées le gymnase de Lille. Comment se passe un peu cette occupation et comment s'est fait un peu cette transition entre les parcs et le gymnase?
Ok, alors pour revenir un peu sur le contexte, donc il y a eu l'évacuation effectivement du Parc Saint-Cyr et du Square de la Touche. Suite à cette évacuation, il y a à peu près la moitié des personnes qui ont été relogées et l'autre moitié qui sont restées à la rue. Donc là, on a monté un nouveau campement au Square des Hautes-Ombes et ce campement a été de nouveau évacué à peu près un mois après, donc quelques jours avant l'occupation du gymnase de Lille. On occupe toujours le gymnase de Lille actuellement avec l'interorganisation de soutien aux personnes exilées. Et il y a 80 personnes aujourd'hui, donc le nombre a beaucoup augmenté, les personnes changent régulièrement. Il y a une vingtaine d'enfants à peu près, et c'est une situation qui est extrêmement précaire, il n'y a plus de place dans le gymnase tout simplement. On essaye de mettre les familles sous tente quand même pour qu'elles aient un espace personnel, qu'elles ne vivent pas toutes ensemble quoi. Mais il n'y a pas de place, il y a très peu de sanitaires. C'est des personnes qui n'ont pas forcément accès à toutes les autres associations d'aide, donc les Restos du Cœur, etc. Et c'est des personnes dont les droits ne sont pas respectés, en fait, tout simplement. Parce qu'un gymnase, ce n'est pas un hébergement, ce n'est pas un lieu de vie digne. Donc c'est des personnes qui sont sans abri, alors qu'il fait presque moins 2 parfois le soir en ce moment, qu'il y a des enfants qui devraient être scolarisés, des enfants en bas âge qui devraient être logés.
Oui, donc justement, c'est une solution qui est temporaire, mais vous aimeriez un retour des pouvoirs publics. Et justement, vous avez notifié que ces personnes, elles étaient toujours en attente de solutions pérennes. Est-ce que vous avez eu un retour des autorités ou pas du tout?
On n'a pas de retour de la préfecture, parce que c'est la responsabilité de la préfecture, là. On envoie régulièrement des mails d'alerte parce qu'on est inquiet pour ces personnes-là. Et on n'a jamais de réponse de la préfecture.
Et est-ce que vous craignez une possible... une possible intervention des forces de l'ordre ou vous pensez qu'ils vont vous laisser un petit peu tranquille dans ce gymnase-là?
Eh bien, honnêtement, on pense qu'ils vont nous laisser un peu tranquille parce que ça les arrange bien qu'on ait trouvé une solution, même si elle n'est pas pérenne et qu'elle n'est pas vraiment viable. On a trouvé plus ou moins une solution pour que ces personnes ne soient pas à la rue. Donc, on ne pense pas qu'il va y avoir d'évacuation policière, on n'espère pas. Mais c'est aussi à double tranchant parce que du coup, ces personnes, elles peuvent pourraient rester pendant des mois dans le gymnase sans que les autorités se bougent.
Ouais, donc ça les arrange aussi un peu. Donc. Et un de vos autres grands combats, vous l'avez dit, c'est l'accompagnement des jeunes mineurs isolés qui sont en recours de minorité, qui n'ont donc pas accès aux droits qui leur sont dus. Le 5 octobre dernier, vous avez lancé un appel à manifestation nationale pour faire entendre leur voix. Quelles sont justement les difficultés qui sont liées à la reconnaissance de leur statut de mineur ?
En fait, du coup, c'est des jeunes qui ne sont pas reconnus mineurs par le département, mais qui ne sont pas majeurs non plus, parce que leurs papiers prouvent qu'ils sont mineurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont accès à aucun droit, parce qu'ils ne sont ni mineurs ni majeurs. Donc, ils n'ont pas accès à toutes les structures d'aide pour les mineurs, mais non plus pour les majeurs. Donc, par exemple, c'est des jeunes qui ne sont pas reconnus mineurs, ils ne vont pas avoir accès au 115 parce qu'ils ne sont pas majeurs non plus. C'est des jeunes qui ne vont pas être scolarisés, parce que pour être scolarisé, il faut une attestation du département. Ou avoir un représentant légal, mais ils peuvent pas avoir de représentant légal. C'est des jeunes qui, en fait, qui ont accès à rien, même pour la licence de foot, ils peuvent pas faire du foot en club parce que ils ont pas d'attestation du département et qu'ils sont pas majeurs. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça, des choses de tous les jours comme les activités sportives, jusqu'à avoir un toit, se nourrir, voilà.
Cette année, vous prenez en charge 12 jeunes qui ont été refusés par l'aide sociale à l'enfance, dont 5 qui n'ont pas été reconnus mineurs. Vous vous battez donc pour la reconnaissance de leurs droits et leur accès à une bourse liée aux frais de scolarité. Quelles difficultés est-ce que vous pouvez rencontrer pour les aider ?
On prend en charge 20 jeunes.
Ah bon, d'accord.
Il n'y a pas de souci. mais en fait, il y en a 8 qui sont maintenant majeurs. Du coup, je pense que c'est pour ça que...
D'accord.
Le calcul était bon.
Exactement. Les difficultés, là en ce moment, le gros problème, c'est vraiment la scolarité, parce qu'on n'arrive plus à scolariser les jeunes. Donc, parce qu'en fait, l'académie de Rennes refuse de leur faire passer des tests de niveau, ce qui est obligatoire pour pouvoir intégrer une classe, peu importe le niveau scolaire. Donc c'est ça la plus grosse difficulté en ce moment. C'est des jeunes qui du coup ne font rien, ne peuvent pas s'occuper de leur journée parce qu'ils n'ont pas accès à l'école et c'est leur plus grand souhait pourtant. Donc voilà.
Ouais, donc il n'y a aucun accès à la scolarité. Parce qu'avant il y avait quelque chose qui était mis en place avec la case DAV et qui leur permettait d'avoir accès à des classes personnalisées un petit peu.
C'est ça.
Et ça a été rompu.
En fait, on arrivait à avoir des rendez-vous au CASNAV, donc ils pouvaient passer les tests de niveau. Et après, ils étaient orientés dans des classes qui s'appellent les MLDS, c'est les missions de lutte contre le décrochage scolaire. Et ça leur permettait après d'avoir accès à un cursus normal. Et là, on n'a plus, le CASNAV refuse de nous donner des rendez-vous, en fait. Donc là, ça bloque dès la première étape. Et donc, on ne peut pas inscrire les jeunes à l'école.
Et on voulait vous faire réagir. Je vous propose d'écouter un extrait d'une intervention de Carole Gandon, conseillère municipale, lors du conseil municipal du 21 octobre dernier.
La mise en œuvre de ce droit impose à la fois d'accueillir mieux les réfugiés qui ont vocation à bénéficier du droit d'asile et en même temps d'accélérer les reconduites à la frontière de ceux qui, de fait, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir un tel droit. Car, et nous divergeons avec le collectif présent tout à l'heure sur ce point, nous pensons qu'il n'est pas souhaitable, ni même possible, de régulariser toutes les personnes sans papier. Le gouvernement prévoit de modifier la loi afin que des demandeurs originaires de pays sûrs soient dirigés vers une procédure accélérée. Comme vous l'avez souligné, David Travers, aujourd'hui, plus de 85% des OQTF ne sont pas exécutés. Alors on peut faire semblant de ne pas voir que cette situation pose problème, mais à la fin... Il faudra s'attendre à ce que l'extrême droite sabre le champagne.
On vient donc d'entendre Carole Gandon, conseillère municipale de Rennes. Elle nous dit notamment, je cite, qu'il n'est pas souhaitable ni même possible de régulariser toutes les personnes sans papier. Comment vous réagissez face à ces mots ?
Ça me met en colère, honnêtement, parce que, en fait, il est possible de régulariser toutes les personnes sans papier et de les accueillir de manière digne et que tout se passe bien. En fait, tout le problème, il est là. C'est que les personnes, elles sont accueillies dans des conditions qui sont tellement déplorables que forcément, les choses ne se passent pas bien. Mais en fait, la France a les capacités d'accueillir beaucoup de personnes. On l'a vu avec la guerre en Ukraine. Dès qu'il y a des dispositifs adaptés qui sont déployés, et ben, tout marche relativement bien. Donc c'est vraiment une question de volonté politique en fait.
Vous ressentez vraiment qu'il y a une différence de traitement selon les personnes exilées, en fait selon leur origine.
Oui, clairement.
Pour continuer justement sur les réactions politiques, je voudrais parler un peu de la loi sur l'immigration 2023 qui prévoit de faciliter les procédures donc sur les obligations de quitter le territoire français et de créer un titre de séjour métier en tension pour les travailleurs sans papier déjà sur le territoire. En quoi est-ce que ce projet de loi va renforcer la situation précaire des personnes exilées ?
Il va renforcer la situation précaire parce que en fait c'est des personnes qui vont obtenir des titres de séjour juste pour un temps donné et pour travailler dans des milieux très précaires, donc ça va empirer leur situation. C'est pas un véritable titre de séjour qui leur permet d'avoir un travail digne, encore une fois, des conditions de vie dignes, un logement digne, etc. Voilà. Et faciliter les OQTF, ça va créer des personnes qui n'auront plus aucun droit, encore moins de droits que des personnes qui n'ont pas d'OQTF, et qui ne seront pas forcément reconduites à la frontière, et qui, si elles le sont, seront mises en danger dans leur pays d'origine.
Et vous, avec Utopia 56, donc vous attendez à chaque fois un retour des pouvoirs publics. Et pour vous, quelles mesures ou quelles solutions durables vous pensez qu'il est vraiment nécessaire de mettre en place pour sortir de cette impasse et un peu de ce cycle sans fin, en fait ?
La régularisation de ces personnes-là, parce que c'est la régularisation, qui donne accès à des droits. Voilà.
Ok, donc là, ce que vous attendez vraiment de l'État, c'est une régularisation de toutes les personnes exilées.
Exactement. Et en attendant, juste le respect de leurs droits, un logement digne, pour commencer.
Peut-être une réponse de la préfecture aussi.
Oui.
Merci beaucoup Marion Kersi. On rappelle qu'Utopia 56 recherche des hébergeurs solidaires pour des jeunes en recours de minorité pour des hébergements sur le long terme. Vous pouvez contacter l'association par mail à mie.rennes@utopia56.org. Et puis aujourd'hui, l'association a lancé un appel aux dons en proposant d'offrir différents packs cadeaux aux personnes.
C'est ça, aux personnes exilées en fait. Et donc il y a plusieurs packs cadeaux à 5, 10, 20 euros. Pour offrir, il y a des tentes, il y a des gants, il y a des bonnets pour les aider à passer l'hiver, malheureusement, ils ne passeront pas dans de bonnes conditions.